peut-être que oui, vous connaissez déjà pas mal Jean-Paul II. Vous savez comme moi repérer dans chaque grande œuvre de Jean-Paul II un noyau christologique. Et on le trouve assez souvent à la première lecture. Vous ne fatiguez pas à prendre des notes, je vous passerai mes papiers, ne vous inquiétez pas, c'est pas... Je vous ai mis toute une série de textes justement pour qu'on puisse les absorber, les lire, les relire surtout, parce qu'à l'intérieur d'un exposé ça aurait été vraiment trop rapide, trop pénible. Vous avez les textes, vous allez pouvoir mettre de la chair entre les textes, mais c'est surtout les textes qui vont donner un ordre à la réflexion. Et donc je voudrais vous parler bien sûr de la miséricorde selon Jean-Paul II, mais d'un point de vue peut-être un petit peu original. J'avais entendu parler de la miséricorde pendant plusieurs jours. C'était difficile pour moi de trouver quelque chose de neuf, parce que ni au plan biblique, ni au plan... Jean-Paul II n'a innové sous aucun... Bon, innové en tout cas au plan biblique. Mais il a apporté une lumière, à mon avis, spéciale concernant justement ce que nous allons traiter maintenant. Évidemment, vous pouvez lire l'encyclique de Jean-Paul II sur la miséricorde. Vous allez la lire directement, nous serons nourris directement, bien sûr. J'essayais de dégager à partir du noyau, une partie du noyau christologique de Divine Misericordia, une problématique. Vous allez essayer de comprendre, et puis moi aussi je vais essayer de comprendre, parce que je suis dans un chantier. C'est un chantier que j'élabore depuis plusieurs années. Et là, je me lance un peu avec vous. Je suis très content de partager ça avec vous. Et puis si jamais vous avez des réactions, des questions, vous pourrez me soumettre ça d'une manière ou d'une autre. Donc, les paragraphes de Divine Misericordia, comme de Redemptorum Unis, ces deux premières encycliques sont très longs. Vous n'avez pas encore François, lui, il met un numéro à chaque alinéa, presque. Ici, nous sommes encore dans une démonstration un petit peu longue. Numéro 5 à 8, là, c'est le noyau christologique, ça fait vraiment l'essentiel de l'encyclique. Alors, le premier texte que j'épingle à ce propos, c'est donc celui que vous avez sous les yeux, numéro 5. On dit « Les événements du Vendredi Saint » et auparavant encore « La prière à Gethsémani » introduisent dans tout le déroulement de la révélation de l'amour et de la miséricorde dans la mission messianique du Christ un changement fondamental. Celui qui est passé en faisant le bien et en rendant la santé, en guérissant toute maladie et toute langueur, semble maintenant être lui-même digne de la plus grande miséricorde et faire appel à la miséricorde quand il est arrêté, outragé, condamné, flagellé, couronné d'épines, quand il est cloué à la croix et expire dans d'atroces tourments. C'est alors qu'il est particulièrement digne de la miséricorde des hommes qu'il a comblé de bienfaits, et il ne la reçoit pas. Même ceux qui lui sont les plus proches ne savent pas le protéger et l'arracher aux mains des oppresseurs. Dans cette étape finale de la fonction messianique s'accomplissent dans le Christ les paroles des prophètes et surtout celles d'Isaïe au sujet du serviteur du Seigneur. Dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Et avec ce texte, nous sommes plongés donc dans le mystère de la rédemption. Jean-Paul II l'avait déjà scruté dans la première encyclique, Redemptorum Unis, 179, celle-ci c'est 81, et je pense que la première épître de Saint Pierre aide à comprendre l'importance de ces lignes. Saint Pierre qui s'adresse aux domestiques dont les maîtres sont exigeants. Alors je vous ai donné aussi ce texte long. Vous, les domestiques, soyez soumis à vos maîtres avec une profonde crainte, non seulement aux bons et aux bienveillants, mais aussi aux difficiles. Car, voici la figure du Messie qui se profile, C'est une grâce que de supporter, par égard pour Dieu, des peines que l'on souffre injustement. Quelle gloire, en effet, à supporter les coups si vous avez commis une faute. Mais si, faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce auprès de Dieu. Pourquoi ça? Or, c'est à cela que vous avez été appelés, car le Christ aussi a souffert pour vous montrer sa miséricorde, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui, qui n'a pas commis de faute, il ne s'est pas trouvé de fourberie dans sa bouche. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge avec justice. Lui qui, sur le bois, a porté lui-même nos fautes dans son corps, afin que, mort à nos fautes, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri, car vous étiez égarés comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Eh bien, saint Pierre, qui a vu Jésus souffrir, le reconnaît dans la situation douloureuse des premiers chrétiens, les domestiques, les esclaves. Et il annonce un principe de la vie chrétienne. C'est une grâce de supporter des peines que l'on souffre injustement. Et il insiste, vous êtes appelés à reproduire en vous ce que le Christ a souffert. Lui, il a souffert injustement. Souffrant, il ne menaçait pas. On ne lui a pas fait miséricorde, tandis qu'il faisait miséricorde. Ce mystère, bien sûr, Jean-Paul II a fait le lien avec Isaïe. Déjà, effectivement, ce mystère était annoncé dans le quatrième chant du serviteur. Le Christ a préféré remettre sa cause à son Père, intercéder en silence pour les pécheurs. Il agissait comme un grand riche qui vient en aide miséricordieusement à des personnes qui sont de toute évidence incapables de rembourser leurs dettes. Et il est mort ainsi, sans goûter la miséricorde de la part des hommes. Eh bien, ça se comprend, puisque faire miséricorde à nos frères, c'est ce que précisément nous ne pouvions pas faire. Et c'est ce que, par sa mort, le Christ devait recréer dans nos cœurs. Il venait pour nous donner ce pouvoir. Et en effet, nous voyons saint Étienne, au tout début de la vie de l'Église, faire miséricorde à ses bourreaux. Auparavant, c'était impensable. Étienne reproduit le premier, la façon dont le Seigneur Jésus a souffert injustement en intercédant pour ses bourreaux. Mais fait miséricorde sans recevoir la miséricorde, mais en intercédant pour ses bourreaux. Parce qu'il se soucie de ses adversaires comme Jésus, et qu'il ne souhaite pas leur perte, mais plutôt leur conversion, il décide de leur pardonner. Ne leur compte pas ce péché. Le Christ a introduit dans l'histoire des hommes ce nouveau type de relation entre les hommes violents, la réciprocité qui manqua au Christ. Et pour cause, les cœurs n'étaient pas encore recréés par la grâce de la rédemption. Il y a un avant et un après la mort du Christ. Et le Christ a agi en faisant le bien. C'est alors qu'il est particulièrement digne de la miséricorde des hommes qu'il a comblé de bienfaits. Et il ne la reçoit pas. Alors même qu'il demande à son Père de manifester la tendresse de son cœur paternel envers ses enfants pécheurs, plutôt que d'exercer le droit envers eux. Et le Christ, le serviteur, accepte cette façon de faire. Il veut cela justement parce que c'est là la volonté de son Père, manifester son visage miséricordieux. Donc le Christ a introduit cela, c'est la vie même de l'Église, la vie profonde. Je me suis posé la question, quelle est l'origine de l'encyclique Dives in Misericordia? Évidemment, il y a plusieurs pistes possibles pour répondre à cette question. On peut prendre en considération avant tout la piste de l'expérience. C'est l'expérience de la misère de l'homme qui a conduit Wojtyła à la miséricorde. La miséricorde, je pense que vous en savez la définition maintenant, c'est sentir dans mon cœur la misère de l'autre, la miséricorde. Je sens dans mon cœur la misère d'autrui, mais pas simplement pour rester à distance, mais pour remédier à cette misère, la miséricorde. Je ne vais pas reprendre ici le beau chapitre que Andrea Riccardi consacre à la jeunesse de Karol Wojtyła dans la biographie. Mais je trouve que les confidences de Macharski viennent très à propos. Voici ce qu'il écrit. Nous avions tous touché le fond. La mort était partout. Nous avions tous peur de finir dans les camps en Allemagne, d'être déporté vers l'Est ou être enfermé dans la prison de Montelupich à Cracovie, d'où s'échappaient des cris effrayants. C'est à la page 52 de la biographie de Riccardi. C'est dans ce climat, note Riccardi, que Wojtyła, un jeune homme sérieux et studieux, jugé un peu différent des autres par les gens de son âge, approfondit sa passion pour la religion. Jean-Paul II confiera bien des années plus tard, au cours de la consécration du sanctuaire de la Divine Miséricorde, le 17 août 2002. C'est exactement le contexte géographique dans lequel il vivait dans ces années-là. Ces années de jeunesse. Beaucoup de mes souvenirs personnels sont liés à ce lieu. Je venais ici surtout durant l'occupation nazie, du temps où je travaillais à l'usine Solvay, tout près d'ici. Aujourd'hui encore, je me rappelle le chemin. Je le parcourais tous les jours. Et comment Jean-Paul II en est venu à la miséricorde, en parcourant le chemin de la misère et la grande misère. Et c'est justement le lieu qui va devenir le sanctuaire de la miséricorde. On peut rapprocher ces souvenirs de jeunesse de certaines réflexions de Jean-Paul II dans Mémoire et identité, publié en 2005, quelques semaines avant sa mort. Et Jean-Paul II, il fait une analyse du progrès des idéologies du mal, comme il les appelle, c'est le titre du chapitre 2. Il évoque le climat imposé par les marxistes. Après, évidemment, Hitler, ce furent les marxistes. Et il dit l'abandon du christianisme comme source de l'action philosophique. Vous aurez mon exposé quand je vous le donnerai. Vous aurez toutes les références au début dans les premiers chapitres, page 22. Donc, le climat imposé par les marxistes, l'abandon du christianisme comme source de l'action philosophique. Et il analyse à la racine des Lumières, la philosophie des Lumières, il y a cette prétention qu'on ne peut pas rejoindre l'existence de Dieu. Je le cite, vous avez le texte. Dieu ne peut demeurer comme l'ens subsistens, l'être autosuffisant, comme le créateur, celui qui donne l'existence, ni même comme celui qui se donne lui-même dans le mystère de l'incarnation, de la rédemption et de la grâce. Le Dieu de la révélation avait cessé d'exister comme Dieu des philosophes. Seul demeurait l'idée de Dieu comme thème d'une libre élaboration de la pensée humaine. Il est clair que là où s'impose la prétention qu'on ne peut rejoindre par la raison l'existence de Dieu, texte 4, s'écroulent aussi les bases de la philosophie du mal. Le mal, en effet, dans son sens réaliste, ne peut exister qu'en relation au bien, et en particulier en relation à Dieu, bien suprême. Le livre de la Genèse parle précisément de ce mal. C'est dans cette perspective qu'on peut comprendre le péché originel et aussi tout péché personnel de l'homme. Mais ce mal a été racheté par le Christ, par la croix. Ou plus précisément, l'homme a été racheté, lui qui, par l'action du Christ, est devenu participant de la vie même de Dieu. Dans la mentalité des Lumières, tout cela, le grand drame de l'histoire du salut, avait disparu. L'homme était resté seul. Seul comme créateur de sa propre histoire et de sa propre civilisation. Seul comme celui qui décide de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Comme celui qui existerait et agirait, et si Deus non daritur, même si Dieu n'existait pas. Si l'homme peut décider par lui-même, sans Dieu, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, il peut aussi disposer qu'un groupe d'hommes soit anéanti. Et ça, c'est dans Mémoire et Identité, c'est la dernière chose écrite par Jean-Paul II, page 22-23. Mais Jean-Paul II pense à sa jeunesse, aux idéologies du mal. C'est là qu'il a fait l'expérience de la misère de l'homme. Et ses textes traduisent le désarroi dans lequel il a vécu. Et c'est pour cette raison, je crois, qu'il est allé très loin dans l'analyse du mal multiforme contemporain. Suivons-le encore dans cette analyse. Et c'est le regard de l'homme mûr, de l'homme qui se prépare à mourir, sur le jeune homme qu'il était dans les années 40. Deux grandes parenthèses, une inclusion. Donc, l'évocation de sa jeunesse à travers la biographie Ricardi, et aussi donc l'évocation de la jeunesse donc dans Mémoire et Identité. Donc, l'ouvrage le plus mûr. Et vous allez voir, aussi on va ouvrir tout à l'heure le signe de contradiction. Donc on le suit encore un peu dans l'analyse de ce mal multiforme. Vous avez le texte. Après la chute des régimes édifiés sur les idéologies du mal, dans les pays concernés, les formes d'extermination évoquées ci-dessus ont en fait cessé. Demeure toutefois l'extermination légale des êtres humains conçus, non encore nés. Il s'agit encore une fois d'une extermination décidée par des parlements élus démocratiquement, dans lesquels on en appelle au progrès civil des sociétés et de l'humanité entière. D'autres formes de violation de la loi de Dieu ne manquent pas non plus. Je pense par exemple aux fortes pressions du Parlement européen pour que soient reconnues les unions homosexuelles comme une forme alternative de famille, à laquelle reviendrait aussi le droit d'adopter. On est en droit de se poser la question de savoir s'il ne s'agit pas, ici encore, d'une nouvelle idéologie du mal, peut-être plus insidieuse et plus occulte, qui tente d'exploiter contre l'homme et contre la famille même les droits de l'homme. Pourquoi tout cela arrive-t-il ? 2005, hein. Nous sommes en 2005, nous ne sommes pas au début de sa vie. Hein. Quelle est la racine de ces idéologies de l'après-lumière ? En définitive, la réponse est simple. Cela arrive parce que Dieu, en tant que créateur, a été rejeté. Et du même coup, la source de détermination de ce qui est bien, de ce qui est mal. On a aussi rejeté la notion de ce qui, de manière plus profonde, nous constitue comme êtres humains, à savoir la notion de nature humaine comme donnée réelle, et à sa place, on a mis un produit de la pensée librement formé et librement modifiable en fonction des circonstances. Et c'est à ce moment de ces réflexions que Jean-Paul II parle d'un retour à la philosophie réaliste de saint Thomas. Et il ajoute, on ne peut cependant oublier que toutes ces analyses présupposent implicitement la relation de l'être homme, à savoir qu'il existe un être créé et aussi un être absolu. Si l'on ne part pas de tels présupposés réalistes, on finit par se mouvoir dans le vide. Mémoire et identité, page 25. Dans ces confidences de Jean-Paul II, on voit apparaître un thème capital, celui de la limite imposée au mal. Alors regardez bien comment apparaît ce thème et comment il va se développer. Alors je vous parle de la miséricorde. Et ici nous sommes dans une racine. Il écrit « Il m'a été donné de faire l'expérience personnelle des idéologies du mal. C'est quelque chose qui ne peut s'effacer de ma mémoire. Une fois la guerre finie, je pensais en moi-même, le Seigneur Dieu a accordé au nazisme 12 années d'existence, et après ces 12 années, ce système s'est écroulé. On voit ici la limite imposée à une telle folie par la divine providence. En fait, l'idée d'une limite imposée par Dieu au mal ne vient pas de l'expérience de Wojtyła. Elle vient de la révélation elle-même. Et j'aimerais vous présenter ce thème tel qu'il est ébauché dans le signe de contradiction. C'est le troisième point, donc, la limite imposée au mal. Vous savez que la retraite que Karol Wojtyła a prêchée au pied levé, pratiquement, à Paul VI en 1976 et à la Curie romaine, a été publiée après son pontificat, bien sûr, en France, et nous l'avons connu à partir de 1979, ici. Donc, un immense chef-d'œuvre, donc, la dernière préparation au pontificat, 1976. Alors, toute cette retraite au Vatican est une réflexion sur les idéologies du mal, justement, auxquelles il se réfère donc, dans son dernier chef-d'œuvre, Mémoire et identité. Et il se réfère à l'origine du mal. Donc, on va prendre le signe de contradiction et on va entrer dans le signe de contradiction, on va repérer, justement, comment il analyse le mal et comment il analyse cette limite imposée au mal. Donc, l'origine du mal, toujours. Il faut privilégier, bien sûr, les deux premiers chapitres de la Genèse, toujours, il a analysé cela. Le Seigneur Dieu appela l'homme. « Où es-tu ? » « J'ai entendu ton pas dans le jardin, » répondit l'homme. « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Il reprit. « Et qui t'a appris que tu étais nu ? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit. C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit alors à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» Et la femme répondit, « C'est le serpent qui m'a séduite, et j'ai mangé. » Voyant donc le bien et le mal, dans la vérité la plus totale, à partir des racines mêmes, et voyant le mal d'une façon pénétrante, parce qu'il est la plénitude du bien et l'auteur de tout bien, le Père se charge de réparer, de reconstruire. Dans ce contexte, le passage « Je mettrai l'hostilité » acquiert son sens propre. Les situations confuses sont les pires dans lesquelles s'estompent les frontières entre le bien et le mal et où surgit le chaos. L'être humain, homme et femme, avait, dès avant sa chute, de quoi discerner le bien et le mal, d'après l'ordre reçu de Dieu. Toutefois, après sa désobéissance, cette lumière l'accompagne toujours. Parce que l'homme reconnaît dans son dialogue avec Dieu la vérité de cette faute en lui-même, l'homme n'est pas irrémédiablement exclu de l'alliance. Il participe à la vérité divine qui inscrit dans sa conscience le départage entre le bien et le mal inspiré par Satan. Telle est sa participation au gouvernement divin, à la seigneurie de Dieu. Comme Dieu, l'être humain peut mettre fin aux situations confuses qui sont les pires. Les frontières entre le bien et le mal ne seront pas estompées. Le chaos sera dominé. On va expliciter. Un peu plus loin, l'accumulation des qualificatifs donnés à Dieu souligne l'étendue de son règne sur toute l'histoire humaine et sa manière d'y exercer sa seigneurie. Dieu va révéler progressivement sa volonté de s'allier les hommes en vue de les sauver des conséquences du premier péché. Gardez bien, c'est dans le signe de contradiction, page 69. L'opposition du bien et du mal a fait irruption dans le monde empirique et a envahi le cœur de l'homme. Quand Dieu dit « J'introduirai l'hostilité », ces mots n'infirment pas l'immense amour dont sont imprégnés les premiers chapitres de la Genèse. Ils expliquent seulement que cet amour, lui-même et lui seul, se trouve hors de ce dramatique conflit du bien et du mal, qu'il le domine et qu'il constitue, ce qui est le plus important, le dernier rempart du bien. Ce Dieu, qui est entièrement du côté du bien et contre le mal, ne cesse d'être le Dieu de l'alliance. Tout au contraire, c'est un Dieu plus sublime que cette opposition, que cette fêlure que la créature la plus achevée a introduite dans le monde. C'est un Dieu toujours plus sublime, non seulement en tant que le Dieu de majesté infinie, mais également en tant que le Dieu de l'alliance. Il est Dieu, celui qui ne peut se renier lui-même. Je vous donne tout de suite la suite. Le Dieu de majesté infinie. Le Dieu de la transcendance absolue. Mais pas la transcendance de Kant, bien sûr. Le Dieu de majesté infinie. Le Dieu de la transcendance absolue et de la sainteté absolue prend la défense du bien dans l'histoire spirituelle de l'humanité et met en œuvre les moyens nécessaires à sa victoire. Il s'affirme de cette manière comme le Dieu de l'Alliance, que dès lors il va conclure à plusieurs reprises avec les hommes, en commençant par Noé après le déluge, jusqu'à sa forme définitive, dont l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Novissime locutus est nobis in filio ». Enfin, il nous a parlé par le Fils. Prendre la défense du bien est une action transcendante, une action de la part de quelqu'un qui est à l'abri de tout mal. Une action qui convient à celui que Wojtyła désigne comme le bonum diffusivum sui, celui dont la bonté attire tout ce qui trouve en elle sa fin, sa plénitude. Voyez le texte suivant. Ainsi donc, poursuit Wojtyła, le Dieu de l'Alliance apparaît comme celui qui est toujours plus sublime que le mal engendré par la haine de Satan, et celui engendré par la faiblesse humaine. Il est toujours plus fort parce qu'il est l'amour. À travers la sévérité des paroles relatées dans la Genèse sous la forme de malédiction annonçant l'hostilité, c'est-à-dire la lutte entre le bien et le mal en définitive, Dieu apparaît comme vérité et amour. Quand le Créateur s'est tourné vers Satan, avec des paroles de malédiction, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. La malédiction est la réponse de Dieu. Elle apparaît pour la première fois dans la Genèse comme le sceau apposé sur la révélation du mal. Dieu prend la défense du bien. Comment ? La suite. Dès lors, la vérité divine n'hésitera pas à entrer dans les chemins, par des chemins connus d'elle seule dans l'histoire du monde, dans la pensée et le cœur des hommes, d'où elle a été extirpée par le père du mensonge et où elle demeure l'objet des mêmes tentatives sataniques. Cependant, celui qui a dit « Je suis la voie et la vérité » a la victoire promise d'avance. Ce grand cœur qui s'est ouvert dans les premiers chapitres de la Genèse ne se ferme pas devant le mensonge. Sur toute l'histoire de l'homme, sur chaque époque, y compris la nôtre, il diffuse la lumière de la grande espérance. Là, ça, c'est quelques pages du signe de contradiction. Et la limite imposée au mal. Eh bien, nous trouvons des échos de cette théologie du signe de contradiction. La grande œuvre antérieure au pontificat, c'est encore une œuvre de jeunesse. Il a 57 ans quand il fait, quand il écrit cette œuvre. Encore une œuvre de jeunesse par rapport à 2005, mémoire et identité. 84 ans, évidemment, c'est une œuvre de jeunesse, le signe de contradiction. Mais les mêmes lignes de force, la même pensée. Regardez bien. Donc nous trouvons des échos de cette théologie du signe de contradiction dans Mémoire et Identité, la dernière œuvre, encore une fois, l'œuvre de maturité. Jean-Paul II a évoqué les années du nazisme. Il parle ensuite du communisme. Alors, nous revenons dans Mémoire et Identité, page 28. En 1945, à la fin de la guerre, le communisme apparaissait très solide et très dangereux, beaucoup plus qu'en 1920. On avait l'impression très nette que les communistes pouvaient conquérir la Pologne et aller au-delà, en Europe occidentale, se lançant à la conquête du monde. Ce ne fut pas le cas. Malgré le triomphe de Pilsudski lors de la bataille contre l'armée rouge, qui réduisit les prétentions soviétiques, les accords de Yalta furent respectés seulement en apparence par les communistes, qui les violèrent de fait de diverses manières, et avant tout par l'invasion idéologique et la propagande politique, non seulement en Europe, mais aussi en d'autres parties du monde. Pour moi, il fut tout de suite clair que leur domination durerait beaucoup plus longtemps que le nazisme. Combien de temps? Il était difficile de le prévoir. Et voici comment il interprète cette montée du mal. On se prenait à penser, en ce temps-là, qu'un tel mal était en quelque façon nécessaire au monde et à l'homme. Comment un grand saint interprète le mal? On se prenait à penser, en ce temps-là, qu'un tel mal était en quelque façon nécessaire au monde et à l'homme. Il arrive en effet qu'en certaines situations concrètes de l'existence humaine, le mal se révèle dans une certaine mesure utile en ce qu'il crée des occasions pour le bien. Saint Paul lance un avertissement à ce propos. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien. Alors faisons très attention à cette phrase paradoxale qui suit. En définitive, on arrive ainsi, sous l'incitation du mal, à mettre en œuvre un bien plus grand. Et Jean-Paul II va conclure le chapitre 3 de Mémoire et Identité par ces mots. La limite imposée au mal est constituée par le bien. Regardez cette phrase. Le bien divin et le bien humain qui se sont manifestés dans l'histoire elle-même au cours du siècle passé et de millénaires entiers. De toute façon, le mal dont on fait l'expérience directe ne s'oublie pas facilement. On peut seulement le pardonner. Et nous voici au cœur de notre sujet. Devant le mal immense qui nous apparaît comme redoutable, on peut seulement pardonner. Ces derniers mots, on peut seulement le pardonner. Et que signifie pardonner? Sinon, en appeler au bien qui est plus grand que n'importe quel mal. En définitive, ce bien n'a son fondement qu'en Dieu. Seul Dieu est ce bien. Oui. J'ai commencé par le noyau de divers et miséricordia. Le Christ a fait miséricorde sans recevoir miséricorde. Qu'est-ce qui resplendit là? Le pardon. La force divine du bien divin dans l'homme. La force, la toute puissance du bien suprême, participer par le cœur de l'homme. Et tienne, pardonne-leur, ne leur tiens pas compte de ce péché. Et le Christ qui ne reçoit pas miséricorde, au moment où il vit la plus grande détestation, la plus grande violence, il absorbe cette violence par le pardon. Et il donne cela aux fidèles baptisés. Et c'est cela. C'est ce pouvoir même qui nous est donné par la nouveauté de notre baptême. C'est ce qu'on appelle donc la miséricorde. C'est comme ça qu'on vient en aide à la misère de l'homme. C'est là qu'on remédie. C'est par le pardon que l'on remédie à la misère de l'homme. On peut seulement pardonner. C'est fou, cette parole. Comment comprendre cette affirmation? La limite au mal est constituée par le bien divin et le bien humain qui se sont manifestés dans l'histoire elle-même. Eh bien, la conjonction « et » me paraît capitale, de même que l'idée qu'on mette en œuvre un bien plus grand. Quelque chose de stupéfiant, mais Jean Paul II, il ne se trompe pas, c'est nous, chaque fois que notre cœur est se trouve à l'étroit devant des phrases comme celle-là. C'est nous qui nous trompons. Lui ne se trompe pas. Donc, deux choses très importantes dans cette phrase, le bien divin et le bien humain, qui se sont manifestés dans l'histoire elle-même, puis juste un peu plus haut, donc, l'idée que on mette en œuvre un bien plus grand. C'est nous qui le mettons en œuvre. Car il ne s'agit pas d'une limite simplement imposée de l'extérieur, comme Dieu conçu comme un surveillant. C'est une limite qui a pénétré la vie culturelle de l'homme. La limite imposée au mal par le bien divin, ajoute-t-il, en est arrivée à faire partie de l'histoire de l'homme, en particulier de l'histoire de l'Europe, par l'action du Christ. Si je pouvais me risquer à résumer la pensée de mon maître, je dirais, le bien divin, qui a pris racine dans le cœur de l'homme par la grâce du Christ, a fructifié en pardon. On peut seulement pardonner cet immense péché. Et c'est là la limite imposée au mal dans l'histoire. Parce que précisément, c'est la richesse du Christ qui est communiquée aux baptisés. Même le mal le plus hideux pâlit devant la puissance du pardon divin que le chrétien met en œuvre. C'est cela, le charme de Jean-Paul II. C'est ça qui explique, je pense, l'immense sainteté de Jean-Paul II. Je répète, même le mal le plus hideux pâlit devant la puissance du pardon divin que le chrétien met en œuvre. Le pardon que les chrétiens exercent est une limite au mal parce que la sagesse de Dieu pénètre dans la pensée et le cœur des hommes et s'efforce d'obtenir leur concours pour faire le bien, pour pardonner grâce à l'amour du Christ plus fort que le péché, grâce à son pouvoir à lui sur le mal, qu'il communique à ses fidèles. Ça vous rappelle la doctrine de la fonction royale de l'Lumen Gentium, Lumen Gentium 36. Je ne développe pas. Il s'agit d'une limite imposée au mal par l'homme lui-même cette fois. Et cette action édifie une culture nouvelle évangélique. Toute l'entreprise de mémoire et identité est de montrer comment la culture est le résultat de la grâce du Christ pénétrant les cœurs et les sociétés. Et précisément, on voit déjà cela dans les dernières lignes du chapitre 3 de Mémoire et Identité. Mais regardez ce qu'il dit dans Mémoire et Identité, la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'il rappelle ? La limite imposée au mal par le bien divin en est arrivée à faire partie de l'histoire de l'homme, en particulier de l'histoire de l'Europe par l'action du Christ. Il n'est donc pas possible de séparer le Christ de l'histoire de l'homme. Cette phrase tellement fameuse. C'est justement ce que j'ai dit à l'occasion de ma première visite en Pologne, quand j'étais jeune pape, en 79. À Varsovie, sur la place de la Victoire, j'ai affirmé alors qu'il n'était pas possible de séparer le Christ de l'histoire de ma nation. Voyez pourquoi ? Parce que la limite imposée au mal, même dans une société dominée par le mal, la limite imposée au mal, elle est en Dieu, elle est participée par l'homme. Et la puissance du pardon agit plus fortement. Et ça donne lieu à une culture chrétienne. Et c'est ça qui fait qu'on ne peut pas séparer le Christ de l'histoire de l'Europe. Voilà les racines chrétiennes de l'Europe. J'ai affirmé alors qu'il n'était pas possible de séparer, vous lirez cette homélie fantastique sur la place de la Victoire. J'ai affirmé alors qu'il n'était pas possible de séparer le Christ de l'histoire de ma nation. Vous voyez, il va beaucoup plus loin, toujours l'étendue la plus large chez Jean-Paul II. Est-il possible de séparer de l'histoire de quelque autre nation ? Est-il possible de le séparer de l'histoire de l'Europe ? De fait, c'est seulement en lui que toutes les nations et toute l'humanité. Vous voyez cette extension progressive, typique de Jean-Paul II. Ma nation, l'Europe, toutes les nations, l'humanité. De fait, c'est seulement en lui que toutes les nations et toute l'humanité peuvent entrer dans l'espérance. N'allons pas plus avant dans la considération de la limite imposée par Dieu au mal du point de vue de l'Europe et de la culture chrétienne. C'est très intéressant, mais je vous laisse à l'analyse de mémoire et identité. C'est vraiment ça le chef-d'œuvre de mémoire et identité, c'est une analyse géopolitique de la culture chrétienne. Revenons au texte du signe de contradiction que je vous ai cité plus haut pour tenter de récapituler maintenant notre étude. C'est le texte 11. Ainsi donc, le Dieu de l'Alliance apparaît comme celui qui est toujours plus sublime que le mal engendré par la haine de Satan et celui engendré par la faiblesse humaine. Il est toujours plus fort parce qu'il est l'amour. À travers la sévérité des paroles relatées dans la Genèse sous forme de malédiction annonçant l'hostilité, c'est-à-dire la lutte entre le bien et le mal, en définitive, Dieu apparaît comme vérité et amour. Et le réaliste. Aussi le disciple de saint Thomas. Très puissant, parce qu'il y a toute la théologie de la simplicité divine. Et parce que Dieu est absolument simple, comme l'enseignaient tous les pères de l'Église, y compris saint Thomas, bien entendu, qui est le maître de Jean-Paul II, hein. Parce que Dieu est absolument simple, il ne se confond pas avec le monde, lui. Il n'entre pas en composition avec le monde. il n'est en rien modifié par l'apparition du mal dans le cœur de l'homme. Il reste intact, pur, saint, hors du dramatique conflit du bien et du mal. Page 69 du signe de contradiction. Non qu'il soit indifférent au monde, mais sa puissance de créer, de vouloir le bien de ses créatures, sa liberté, dépasse infiniment cet objet tellement restreint qu'est l'univers total par rapport à ce qu'il peut. Lui reste fidèle à lui-même, dit saint Paul, 2 Timothée 2, 13. Voilà le fondement inébranlable de la limite imposée au mal. Dieu lui-même. Mais le bien divin devient le bien de l'homme. Et c'est là la dignité de la personne. Regardez le texte suivant. La dignité de la personne humaine a son fondement dans la conscience, dans l'obéissance intérieure à un principe objectif qui permet à la praxis de départager le bien et le mal. Il avertit l'homme du mal et s'efforce d'obtenir son concours pour faire le bien. Dans le signe de contradiction, l'analyse de cette obéissance intérieure au principe objectif, qui est Dieu lui-même, cette analyse est menée dans le contexte du péché originel, dans l'encyclique Dives in Misericordia. Jean-Paul II scrutera cette obéissance dans la conscience de l'enfant prodigue. Pourquoi Jean-Paul II a-t-il écrit l'encyclique Dives in Misericordia? Une question que le théologien doit se poser. Mais c'est peut-être une question sans réponse. En tout cas, je pense que c'est précisément parce que l'homme est, vous voyez l'actualité, on vous a parlé hier de la miséricordia vultus. Il y a comme un rebondissement de l'encyclique Dives in Misericordia actuellement. Dans ces immenses dangers que nous vivons. Précisément parce que l'homme a besoin d'apprendre jusqu'où va la limite que Dieu impose au mal. Si la limite était imposée seulement du côté de Dieu, j'insiste, comme un jugement restant en Dieu même, l'alliance ne serait pas possible entre l'homme et Dieu. La limite imposée par Dieu est intérieure à l'homme. Là, on vérifie que la limite est un bien divin et un bien humain. C'est à l'intérieur de l'homme créé à l'image de Dieu, dans la vie de sa conscience, que se vérifie ce bien divin, mais participé. C'est là aussi que s'authentifie la seigneurie de l'homme, sa fonction royale. Voilà la première garantie que l'amour miséricordieux de Dieu intervient en faveur de l'homme. Le jeu de la conscience, le jeu de la lumière dans le sanctuaire de la conscience, la participation de l'homme à la vérité divine, c'est la première manifestation de sa miséricorde. Comme Wojtyła le disait dans le signe de contradiction, le Dieu de la transcendance absolue prend la défense du bien. Il prend la défense du bien pour que soit saint et sauf l'homme qui est voulu pour participer à la vérité divine elle-même. La vie de la conscience, comme l'a vu saint Thomas d'Aquin, est une participation au gouvernement divin. C'est par sa participation à la loi divine qu'il peut faire passer dans ses actes que l'homme devient l'allié de Dieu, jusqu'à être miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. L'homme participe à la loi divine, par sa conscience, il participe à la loi nouvelle. toujours, toujours la relation la plus vaste, toujours la relation de l'homme avec Dieu chez Jean-Paul II, et la relation des hommes entre eux, toujours les deux axes sont parfaitement liés. Crucifié, comme il dit, dans le signe de contradiction, les deux axes. L'axe vertical de l'homme dans l'intime de sa conscience qui participe à la vérité divine, qui choisit pour lui-même le bien, et qui choisit aussi en faveur des autres de pardonner. Et à ce moment-là, il ne participe pas simplement à la vérité divine comme toutes les autres consciences humaines. Il participe à la loi divine, il participe au cœur de Jésus, il participe à la puissance du pardon, greffée de nouveau dans le cœur de l'homme par la grâce sanctifiante, par le baptême et les sacrements et l'Eucharistie. Il y a les mesures, la mesure du cœur humain qui se dilate. Si la limite imposée par Dieu au mal est intérieure à l'homme, et pas simplement extérieure à l'homme, si la limite imposée par Dieu au mal est intérieure à l'homme, si l'homme participe au départage du bien et du mal, dont Dieu est garant comme bien suprême, on comprend que Jean-Paul II ait voulu en effet analyser cette participation à la lumière divine dans la conscience de l'enfant prodigue. C'est absolument merveilleux l'encyclique sur la miséricorde. Pourquoi c'est merveilleux ? C'est merveilleux à cause de ça. Il écrit dans au paragraphe 4 de Dives et Misericordia, c'est le texte que vous avez, « La fidélité du Père à soi-même est totalement centrée sur l'humanité du Fils perdu, sur sa dignité. Le Père lui manifeste avant tout sa joie de ce qu'il ait été retrouvé et soit revenu à la vie. Cette joie manifeste qu'un bien était demeuré intact. Un fils, même prodigue, ne cesse pas d'être réellement fils de son père. Elle est en outre la marque d'un bien retrouvé qui, dans le cas de l'enfant prodigue, a été le retour à la vérité sur lui-même. Cette vérité, c'est une œuvre de sa miséricorde et c'est le plus beau cadeau de la miséricorde de Dieu. Car cette vérité porte sur le fait que Dieu voit en l'homme un fils. Le Père lui manifeste avant tout sa joie qu'il ait été retrouvé, qu'il soit revenu à la vie. Un bien était demeuré intact. Quoi ? L'image de Dieu, qui est vue par Dieu en fonction de l'élection éternelle comme fils. Voyez, Dieu est fidèle à lui-même. La limite imposée au mal est en Dieu, dans l'élection avant la création du monde. Dieu n'a pas changé d'idée. Et l'homme participe déjà, par l'image de Dieu en lui, il participe déjà à cette alliance. Même le plus grand pécheur y a part. Pas d'un point de vue surnaturel, encore une fois, mais du point de vue naturel. Un fils, même prodigue, ne cesse pas d'être réellement fils de son père. Et Dieu le voit comme fils. Il va devenir mon enfant, ce fils, ce pécheur. Il doit le devenir. Il va le devenir par l'expérience de ma miséricorde. Et c'est justement l'expérience de la miséricorde qu'il fait déjà lorsqu'il revient à la vérité. Cette vérité, c'est une œuvre de la miséricorde de Dieu. Et c'est le plus beau cadeau. Encore une fois, parce que cette vérité porte sur le fait que Dieu voit en l'homme un fils. Donc il faut que l'enfant se voit comme un fils, se voit comme tel. Et il le verra finalement. Vous verrez les développements de Dives et Misericordia, vous les retrouverez avec plaisir. Il le voit seulement après le processus de conversion, quand il est dans l'étreinte, quand il est dans l'accolade paternelle. Le père de l'enfant prodigue est fidèle à sa paternité. Et nous sommes renvoyés à Éphésiens 1. fidèle à l'amour dont il comblait son fils depuis toujours, Éphésiens 1 bien sûr, l'enfant prodigue commence à se voir lui-même et à voir ses actions en toute vérité. Une telle vision de la vérité est une authentique humilité. Et précisément, à cause de cela, vous voyez, le resplendissement de la vérité, il devient au contraire pour son père un bien nouveau. Le père voit avec tant de clarté le bien qui s'est accompli grâce au rayonnement mystérieux de la vérité et de l'amour, qu'il semble oublier tout le mal que son fils avait commis. Vous voyez, rayonnement mystérieux de la vérité, vous voyez là ce que c'est ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça, c'est l'encyclique Veritate Splendor qui est en germe ici. Vous voyez que les encycliques s'emboîtent les unes dans les autres, elles se développent. Donc, ma relation avec la vérité, avec Dieu, l'unique source du bien dans le monde créé, est une manifestation de ma dignité d'image de Dieu et de ma vocation à l'adoption filiale. Cette vocation s'enracine dans les profondeurs de Dieu. Il nous a élus avant la création du monde pour être fils adoptifs par Jésus-Christ. Voilà, c'est peut-être pas la peine de conclure beaucoup plus. Vous avez là les éléments essentiels de la réflexion. Nous avions commencé par le noyau christologique de Dives in Misericordia. Le Christ ne reçoit pas miséricorde. Et pour cause, car il vient implanter cet amour. Il vient en faire l'expérience à l'homme en le rendant à la vérité de son humanité. C'est-à-dire, à la vie de sa conscience. Il était mort et il est de nouveau vivant. Plus encore, d'après Dives in Misericordia, le Fils de Dieu lui dévoile un lien avec Dieu plus profond que le simple lien de création, c'est une expression de Jean-Paul II. Il est prédestiné, avant la création du monde, à l'adoption filiale, et rien ne peut modifier, diminuer cet amour paternel qui travaille constamment dans le cœur de son enfant à restaurer en lui la vérité de ce juste rapport avec Dieu. La justice n'est pas estompée par la miséricorde, c'est miséricordieusement que Dieu restaure la justice dans le cœur de l'homme. Cet accord de sa volonté et de sa conscience avec la volonté divine, cet ajustement. Dieu veut rendre cet accord de sa volonté à sa créature préférée après le péché. Il va la lui rendre, va lui rendre cet accord, cet ajustement, cette justification. Il va lui rendre cette justice par la justice du cœur humain du Fils de Dieu, dans l'exercice même de son obéissance filiale à son Père. La révélation de l'homme à lui-même resplendit dans la justice du Christ. Mais c'est une œuvre de miséricorde infinie. Et la justice n'est pas estompée par la miséricorde, au contraire, elle est soulignée par le don du Fils. Désormais, le cœur de l'homme est recréé par le baptême, libre de toute aliénation due au péché, et il peut non seulement être l'objet de la miséricorde de la part de Dieu, mais il devient miséricordieux envers les pécheurs. Alors vous avez évidemment des pages dans Dives in Misericordia là-dessus, bien sûr. Donc j'avais commencé par vous dire, le Christ ne reçoit pas miséricorde, alors qu'il est en train de nous rendre capables de faire miséricorde à nos bourreaux. Vous voyez, c'est cela, l'admirable échange. Et Étienne est le premier témoin. Et alors, donc, maintenant, bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est l'hymne des JMJ de Cracovie. Bienheureux les miséricordieux, vous êtes capables de miséricorde. Ne vivez pas au-dessous de ce que le Christ vous a donné. Et vous allez voir les pages, des pages extraordinaires sur justement ce dont le Christ nous a rendu capables dans l'exercice même de la miséricorde qu'il nous communique du haut de la croix. L'amour miséricordieux, écrit-il, dans les rapports humains, n'est jamais un acte ou un processus unilatérale. Bien entendu, la réciprocité toujours sur Jean-Paul II. Alors évidemment, ce n'est pas étonnant de la trouver ici. Mais tout mon exposé, c'est basé sur la réciprocité. Le Christ ne reçoit pas miséricorde, tant pis. Hop, il rend l'homme capable, lui, de pardonner. Et même si tu ne reçois pas, tu recevras. Et regardez l'explication ici, et vous verrez plus par le détail des pages très fines là-dessus. L'amour miséricordieux dans les rapports humains n'est jamais un acte ou un processus unilatéral. Même dans les cas où tout semblerait indiquer qu'une seule partie donne et offre, et que l'autre ne fait que prendre et recevoir, mais par exemple dans le cas du médecin qui soigne, du maître qui enseigne, des parents qui élèvent et éduquent leurs enfants, du bienfaiteur qui secourt ceux qui sont dans le besoin, en réalité, cependant, même celui qui donne en tire toujours avantage. Vous voyez ? Donner, 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 sans recevoir. Jusqu'où ? Jusqu'où, Seigneur ? Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux, avec la source infinie qui coule en vous. Le monde des hommes pourra devenir toujours plus humain seulement lorsque nous introduirons dans tous les rapports réciproques qui modèlent son visage moral le moment du pardon si essentiel pour l'Évangile. Rappelez-vous ce qu'il disait dans Mémoire et Identité au sujet du mal multiforme et de la croissance du mal. Ce mal, je ne peux pas l'oublier. Il restera marqué pour toujours dans ma mémoire. Tout ce que je peux faire, c'est pardonner. Formidable. Le pardon atteste qu'est présent dans le monde l'amour plus fort que le péché. Et c'est en ce sens qu'on peut comprendre cette assertion de Jean-Paul II dans Mémoire et Identité, citée par Ricardi à la page 53 de la biographie, mais c'est dans Mémoire et Identité, page 17. Sœur Faustine devint celle qui diffusa l'annonce selon laquelle l'unique vérité capable de contrebalancer le mal de ces idéologies est le fait que Dieu est miséricorde. C'est la vérité du Christ miséricordieux. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
Qui a fait le ciel et la terre.